VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Conakry, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, l'opposition ne ménage pas ses critiques après le tout dernier remaniement du gouvernement. Mais le nouveau ministre de la Communication, Thierry Mongala, rejette les allégations des opposants. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Ngwala Ngosu.
Pour l'opposant Clément Mirassa, ce nouveau gouvernement n'est plus qu'un regroupement du clan Sassou.
Tous les ministres qui disaient non au changement de constitution ont été sortis du gouvernement. Aucun jeune n'est rentré au gouvernement, aucun handicapé. Et il y a beaucoup moins de femmes, puisqu'il y a une femme qui est sortie. Elles étaient 4, il en reste 3. Maintenant, la grande constatation, c'est qu'il y a un tiers des ministres qui sont de l'ethnie du président Denis Sassou Nguesso. Et quand vous observez bien ce gouvernement, tous les ministères dits de souveraineté, ce sont les personnalités qui appartiennent à l'ethnie du président Sassou, ce qui est extrêmement grave.
Mais pour Thierry Mongala, le tout nouveau porte-parole du gouvernement, il s'agit bien d'une équipe qui regroupe diverses sensibilités.
D'abord, je voudrais tordre le cou à une approche qui est par trop simpliste auprès d'une certaine opinion qui donne l'impression qu'on a puni les deux ministres qui ont ouvertement déclaré qu'ils étaient contre le changement de la Constitution. Vous aurez remarqué que le gouvernement qui a été réaménagé hier a connu 5 départs et 2 entrées. Donc on ne peut pas résumer à 2 personnalités aussi importantes se considèrent-elles. Alors regardez bien les 5 départs. C'est vrai, les 2 personnalités dont on parle aujourd'hui, la ministre Munari et le ministre Parfait Kolela sont sortis. Mais que dirait-on du ministre Alain Kouala Tipo, par exemple, qui jusqu'à ces dernières heures est, et je pense sera demain, un fervent défenseur du changement de la Constitution. Il est sorti. Et de même, à l'inverse, sur les 2 entrées, nous avons le ministre Tister Tshikaya qui aujourd'hui est entré et qui est leader d'un parti, le RDPS, qui s'est déclaré en sa présence et sous sa présidence contre le changement de la Constitution.
Les Congolais attendent ce mercredi matin le message du président Denis Sassou Nguesso devant le Parlement, certainement pour annoncer le référendum constitutionnel. Ngwela Ngosu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En RDC, inquiétude au sujet de la disparition de Bienvenue Matumo Musangalusa, un militant citoyen, membre du groupe Lucha, la lutte pour le changement. Même l'ONU a exprimé sa préoccupation concernant le cas de ce militant qui n'a plus été revu depuis sa participation samedi au Parlement des jeunes à Kinshasa. Sa disparition intervient alors que 2 autres membres de son groupe, dont Fred Bauma, attendent un procès qui va de report en report. Au micro d'Eddy Sango, le compte-rendu de Juvin Kombe, un autre militant de Lucha à Goma.
Oui, exactement. Depuis l'arrestation de Fred Bauma, c'était le 15 mars de cette année, il avait été interpellé parce qu'il faisait partie des membres de Filimbi qui organisaient la dictativité où Fred Bauma, un militant de la Lucha, avait pris part. Comme bienvenu et aussi membre de la Lucha, a aussi subi cette pression qui était faite par les services de l'intelligence de la RDC. Et il était aussi inquiété. Mais à un moment donné, on a arrêté ses poursuites, ce qui faisait que dans une croix qu'il était en sécurité à Kinshasa. Et le samedi, subitement, nous avons été surpris de sa disparition.
Juvin Kombe, un membre de la lutte pour le changement. Au Rwanda, le Parlement a donné son feu vert à un amendement de la Constitution permettant au président Paul Kagame de briguer un 3e mandat de 7 ans à la tête du pays. Mais toujours pas de décision de la part du chef de l'État rwandais dans ce domaine, Rachid Bouda.
Du 20 juillet au 10 août, les parlementaires ont mené des consultations populaires à travers le pays. Le but, sonder les Rwandais sur un amendement de l'article 101 de la Constitution. D'après les députés, plus de 3,7 millions de citoyens avaient déjà signé une pétition pour le maintien du président Kagame au pouvoir. Dans plusieurs pays de la région, comme le Burundi, la République démocratique du Congo ou encore l'Ouganda, les dirigeants sont accusés de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà des limites prévues. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis avril 2000. Selon ses partisans, il est l'homme qui a mis fin au génocide des Tutsis et ramené la paix dans le pays. Pour l'heure, le président rwandais ne s'est pas prononcé sur une 3e candidature.
Au Rwanda, La mission de l'ONU en Centrafrique a ouvert une enquête sur des allégations de viol d'une fillette et d'homicide qui auraient été commis par les casques bleus à Bangui. On écoute Félix Yepassi Zembrou.
Selon Amnesty International, tout porte à croire qu'un casque bleu a violé une fillette et d'autres soldats onusiens ont tué deux civils, un adolescent de 16 ans et son père. L'ONG dit avoir recueilli au moins 15 témoignages. Amnesty réclame une enquête indépendante et la suspension des responsables présumés. La MINUSCA prend au sérieux ces accusations. Amadou Touré, son porte-parole, précise qu'une enquête est ouverte sur une opération menée le 2 août au quartier PK5 à Bangui. Au moins 5 personnes, dont un casque bleu camerounais, avaient été tuées. Par ailleurs, la justice française a ouvert une enquête sur 14 militaires français de l'opération Sangaris qui sont accusés de viol de 6 enfants entre fin 2013 et début juin 2014 en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, toujours des doutes sur l'identité des auteurs de l'attaque du 7 août contre le bar-restaurant Biblos à Sévaré dans la région de Mopti, attaque qui a fait 13 morts selon le bilan officiel. L'opération est maintenant attribuée au Front de libération du Massina du prédicateur islamiste Amadoune Koufa, alors que dans un premier temps, le groupe de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar en avait revendiqué la responsabilité. Qui est Amadoune Koufa? Le profil de l'un des hommes les plus recherchés au Mali, avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
De son vrai nom, Amadoune Cissé, avec sa cinquantaine d'années, est originaire du village de Koufa dans le cercle de Niafrinke. Il a quitté son village natal dans les années 92-93 pour venir s'installer avec ses talibés à Gembe, une bourgade située à quelques 7 km de Mopti. Chanteur renommé des cantiques en full full day, Amadoune Koufa devient un des prêcheurs le plus coté dans le milieu peul. Vers les années 2000, il part s'installer à Sinakro face à la ville de Amdallah de Sekou Amadou, fondateur de l'empire théocratique du Massina depuis 1818. Injures des cheikhs et critiques d'autres sectes étaient devenues son quotidien dans ses prêches. La seule secte qui avait ses faveurs était la Dawa, à travers laquelle il a fait connaissance avec Iyad Agali. C'est en 2012 qu'il a rallié le rang des djihadistes qui avaient occupé le nord du Mali avec comme base Tombouctou. L'un des hommes les plus recherchés au Mali fait partie des instigateurs de l'attaque de Kona le 10 janvier 2013. Personne n'a pu donner avec certitude là où il est en ce moment précis. Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Nigeria, les États-Unis condamnent vivement l'attentat à la bombe qui a fait au moins 47 morts et une cinquantaine de blessés hier dans un marché du nord-est du pays, zone fréquemment visée par le groupe islamiste Boko Haram. Jacques Aristide.
L'explosion a touché le marché hebdomadaire du village de Sabangari, près de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, à une heure de grande affluence. L'engin explosif était caché dans un sac utilisé pour disperser des herbicides. Il a été introduit dans le marché et visiblement abandonné d'après l'AFP, une attaque qui portait la marque de Boko Haram, selon des témoins qui indiquent que des membres de groupes d'autodéfense et des volontaires se sont rendus sur place et ont pu évacuer les victimes. L'attaque a eu lieu 2 jours après que des membres de Boko Haram ont tué 4 personnes et en ont enlevé 5 autres au cours d'une embuscade sur une autoroute dans la zone. Des hommes armés, soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste, ont abattu 8 personnes fin juillet dans un village près de Biyou. L'insurrection de Boko Haram et sa répression par les forces de l'ordre nigériane ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
Et pour terminer, le secrétaire d'État américain John Kerry, principal artisan de l'accord nucléaire avec l'Iran, continue de plaider en sa faveur. En faveur de son adoption par le Congrès des États-Unis. John Kerry a prévenu qu'en cas de rejet du document, le dollar en pâtirait en tant que monnaie de réserve internationale. Eric Manirakiza.
John Kerry a mis en garde les opposants de l'accord historique conclu avec l'Iran sur son programme nucléaire. Selon M. Kerry, rompre cet accord serait synonyme de lâcher le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. En cas de rejet de l'accord, John Kerry dit craindre un impact négatif sur l'idée que les gens se font du leadership et de la crédibilité des États-Unis. Si les États-Unis agissaient de la sorte, nous perdrions non seulement le soutien de certains partenaires, mais également leur appui si nous devions avoir recours à la force militaire, a-t-il insisté. John Kerry défend avec force depuis des semaines cet accord historique. Son message est destiné à la fois au Congrès américain, mais aussi aux puissances arabes sunnites du Golfe et à Israël sceptique, voire hostile à tout compromis avec l'Iran.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.